Chapitre 16. Monsieur l'abbé Bédard, curé de Charlebourg. Le grand dîner produisit ses conséquences naturelles. Plusieurs convives furent à peine de retour chez eux qu'ils commencèrent à se plaindre de différents maux. Mais aucun d'eux ne fut aussi sévèrement puni que mon vieil ami Paquette, curé de Saint-Gervais. Il faillit en mourir et pendant plusieurs semaines, il lui fut impossible de travailler. Il demanda à l'évêque de me permettre d'aller le remplacer. Et pendant la seconde moitié de mai, je desservis sa paroisse. Vers la fin du mois, je reçus la lettre suivante. Charlebourg, le 29 mai 1834. Révérend Chiniki. Monseigneur Panet m'a cette fois encore choisi pour l'accompagner dans sa visite pastorale. J'ai accédé à sa demande à la condition que vous soyez mis à ma place pour prendre soin de ma chère paroisse pendant mon absence. Car je serai alors sans inquiétude, sachant que mon peuple est entre les mains d'un prêtre qui, quoique encore jeune, a su s'élever bien haut dans l'estime de tous ceux qui le connaissent. Veuillez venir le plus tôt possible, afin qu'avant mon départ, je puisse vous communiquer plusieurs choses qui rendront votre ministère dans Charlebourg plus fructueux et plus aisé. Monseigneur m'a promis que lorsque vous passerez à Québec, il vous donnera le pouvoir d'administrer ma paroisse en mon absence, comme si vous en étiez le propre curé. Votre frère dans la prêtrise, et votre ami dans le cœur de Jésus et de Marie, A. Bédard. Je fus extrêmement troublé par cette lettre. J'étais si jeune et je me sentais si dépourvu des qualités requises pour occuper la haute position à laquelle je me voyais si soudainement élevé. Je savais d'ailleurs que c'était contre l'usage du diocèse de mettre un prêtre si jeune et sans expérience à la tête d'une paroisse aussi importante. Je crus donc que mes amis et mes supérieurs c'était étrangement exagéré mes faibles capacités. Dans ma réponse à M. Bédard, je m'opposais fortement à ce choix, mais je reçus bientôt une lettre de l'évêque m'ordonnant de me rendre à Charlebourg pour y desservir cette paroisse en l'absence du curé. Je considérais cette élévation soudaine et si peu méritée comme une épreuve dangereuse à mon jeune ministère. J'acceptais la tâche en tremblant, mais avec le désir de faire avec l'aide de Dieu mon devoir aussi bien que possible. Je ne cacherai point, cependant, que je me sentis presque défaillir lorsque je mis, pour la première fois, les pieds dans cette paroisse. Je vis son étendue et son importance, et il me sembla plus évident que jamais que M. Bédard et mes supérieurs s'étaient étrangement trompés en mettant sur mes jeunes et faibles épaules un aussi lourd fardeau. Car je n'étais alors qu'âgé de 24 ans, et il y avait à peine 9 mois que j'exerçais mon ministère. M. Bédard était un des rares prêtres de l'église de Rome chez qui j'ai trouvé une foi honnête et sincère. D'un caractère irréprochable, il croyait avec une foi d'enfant toutes les absurdités que l'église romaine enseigne et sa vie était d'accord avec sa foi. M. Bédard était aussi régulier que M. Perras à se confesser une fois, deux fois et même 3 fois par semaine. Et plutôt que de manquer à l'accomplissement de cet acte humiliant, ils venaient souvent, tous les deux, en l'absence de leur confesseur ordinaire, se jeter humblement à mes pieds pour faire l'aveu de leur faute, bien que cela me répugnait excessivement à cause de ma jeunesse. Ces deux hommes remarquables professaient la même opinion sur l'immoralité et l'irreligion de la plus grande partie des prêtres. Ils m'ont souvent raconté, dans leurs conversations privées, des faits qui ne seraient pas crus si je les publiais. Ils m'ont plus d'une fois répété que la confession auriculaire est la source journalière d'une corruption inexprimable entre le confesseur et ses pénitentes. Mais, comme moi, ils n'avaient ni l'un ni l'autre assez de lumière pour en conclure que la confession est d'institution diabolique. Ils croyaient au contraire, tous deux, comme je le croyais moi-même, que cette pratique était nécessaire et divine, et n'était l'occasion de la perte de tant de prêtres qu'à cause de leur manque de foi, de piété, et surtout de leur négligence à prier la Sainte Vierge. Ils ne parlaient jamais sur cette question par esprit de critique à l'égard de nos frères faibles dans la prêtrise. Leur seule intention était de me prémunir contre les dangers aussi grands pour moi que pour les autres. Ils terminaient en général ces confidences par des exhortations à prier de plus en plus la Mère de Dieu, à veiller sur moi-même et à ne jamais rester seul avec mes pénitentes. Ils me conseillaient surtout de traiter mon corps comme mon plus dangereux ennemi et de l'assujettir à la loi en le crucifiant nuit et jour. M. Bédard avait accompagné durant plusieurs années les évêques de Québec dans leur visite épiscopale et il avait vu de ses yeux les plaies hideuses qui, alors comme aujourd'hui, dévoraient les entrailles de l'église de Rome. Il me parlait rarement de ces choses sans verser sur les prêtres tombés des larmes de compassion. Ces récits me remplissaient de tristesse et de honte, et la crainte de tomber moi-même dans cet insondable abîme d'iniquité me pénétrait d'épouvante et d'horreur. Un jour, je lui racontais ce que M. Perras m'avait dit de la désolation de l'évêque Plessis, lorsqu'il lui révéla que dans tout son immense diocèse, 3 prêtres seulement croyaient en Dieu. Je lui demandais s'il n'y avait rien d'exagéré dans ce rapport. Il me répondit avec un profond soupir. « Cher jeune ami, l'ange ne put trouver 10 justes dans Sodome. Je doute qu'il en trouva davantage parmi les prêtres. Plus vous vieillirez, plus vous comprendrez cette vérité. Ah, que ceux qui croient se tenir debout prennent garde qu'ils ne tombent. » Après ces dernières paroles, il me quitta pour aller se jeter aux pieds de son dieu Galette. Les révélations qui me furent faites par ces 2 dignes prêtres n'ébranlèrent nullement ma foi en mon église. Au contraire, cette église devint de plus en plus chère à mon cœur, car, de même qu'une mère grandit dans le dévouement et l'affection de son fils, à mesure que ses malheurs et ses souffrances deviennent plus amères, ainsi, il me semblait que mon devoir, après ce qui venait de m'être révélé, était de travailler avec plus d'ardeur que jamais à témoigner mon dévouement, mon respect et mon amour à ma mère sainte et chérie, l'Église romaine, hors de laquelle, comme je le croyais alors, il n'y avait point de salut. Ces révélations désolantes devinrent ainsi pour moi, par une faveur providentielle, comme un phare bâti sur les rochers les plus dangereux de l'océan pour tenir le pilote éloigné du péril. Bien que ces 2 prêtres professaient un respect et un amour des plus profonds pour les saintes Écritures, ils ne consacraient cependant que très peu de temps à leur étude et à leur méditation. Ils me firent plus d'une fois des reproches de ce que je donnais à la lecture de la Bible une trop grande partie de mon temps. Ils m'avertirent tous deux, à plusieurs reprises, de me tenir en garde contre l'habitude que j'avais de contredire les doctrines et les pratiques de nos théologiens. Ces 2 prêtres, honnêtes et sincères, mettaient une confiance presque sans bornes dans les reliques et les scapulaires. Je leur ai entendu dire du haut de la chair qu'aucun accident mortel ne pouvait atteindre celui qui porte un scapulaire. Mais leur triste fin n'a pas justifié leur assertion, car ils sont morts tous deux de la manière la plus tragique. M. Bédard mourut subitement, le 19 mai 1837, pendant un grand dîner qu'il donnait à ses amis. Et M. Perras devint lunatique en 1845 et mourut dans un accès de folie le 23 juillet 1847.